إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous, chers auditeurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et vous facilite. Nous poursuivons l'étude du livre L'Exposé de la Sunna de l'imam al-Barbahari, qu'Allah lui fasse miséricorde. Dans ce que nous avons lu le cours précédent, l'auteur rahimahullah a mentionné le fait de s'écarter du groupe uni des musulmans ainsi que la division. Et nous avons mentionné certaines preuves mettant en garde contre la division et le fait de se séparer du groupe uni des musulmans. Et nous nous sommes arrêtés au hadith de Muawiyah ibn Abi Sufyan, qu'Allah l'agrée, dans lequel il informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens du livre se sont divisés en 72 groupes, et cette communauté se divisera en 73 groupes. Ils sont tous en enfer sauf un, et c'est la Jama'a. Et nous avons cité certains points importants liés à ce hadith. Néanmoins, il y a un dernier sujet qu'il convient d'évoquer, qui est: est-ce que les sectes présentes à notre époque rentrent dans les 72 groupes mentionnés dans ce hadith? Et avant de répondre à cette question, il faut savoir trois choses importantes. La première est que le fait de dire qu'une secte en particulier rentre dans les 72 groupes demande des preuves. Ceci ne veut pas dire qu'il faut une preuve du Coran ou de la Sunna, mais il faut plutôt une preuve pour qu'on puisse juger que la voie et la méthodologie de cette secte contredit celle des gens de la Sunna et que ce groupe est sorti de la Jama'a. Il faut absolument avoir cette preuve, car Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de parler sans science d'un point de vue général et a interdit, plus particulièrement, de parler sur lui sans science, comme l'a mentionné Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et avec ce genre de paroles, nous pouvons réfuter les détracteurs des savants de la Sunna qui prétendent que les savants de la Sunna sortent les gens de l'islam sans droit, ou encore qu'ils ont de la dureté, et d'autres paroles similaires qui sont véhiculées par certains sectaires. Regardez ce que nous dit Cheikhoul Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Il nous dit que le fait d'affirmer qu'un groupe en particulier fait partie des 72 groupes égarés requiert une preuve. Car Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le fait de parler sans science d'un point de vue général. Et plus particulièrement, il a interdit de parler sur lui sans science. Par conséquent, pour affirmer qu'une secte fait partie des 72 groupes, il faut obligatoirement avoir la science et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il se peut que la personne ait de la science, mais qu'elle fasse preuve de fanatisme, ce qui va la mener à parler sur l'opposant sans science. Et la science et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala sont deux caractéristiques présentes chez les savants de la sunna. La deuxième chose est qu'il faut absolument que celui qui désigne une secte comme faisant partie des 72 groupes ait la connaissance de la règle générale qui fut mentionnée par Al-Lajna Al-Da'ima Lil-Ifta en Arabie Saoudite, qui est que quiconque a pris ses passions comme divinité et a contredit le Coran et la Sunna authentique avec son opinion ou celle de son imam ou la parole de ses suiveurs par orgueil ou par fanatisme ou qui interprète mal le Coran ou la Sunna en leur donnant une interprétation qui n'est pas connue dans la langue arabe et qui contredit les fondements de la législation, rentre dans les 72 groupes égarés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé qu'ils rentreront tous en enfer. Et ceci est une règle générale qui englobe les 72 sectes. Le troisième point est que le premier qui a commencé à énumérer les sectes qui rentre dans les 72 groupes égarés, se nomme Yusuf ibn al-Asbat. Puis l'a suivi Abdullah ibn al-Mubarak. Qu'Allah leur fasse miséricorde. Cheikhoul Islam ibn Taymiyyah a dit à leur sujet, je cite, « Ces deux hommes sont deux savants parmi les éminents savants des musulmans. » Fin de citation. Certains savants d'antan, parmi ceux des premières générations, ont désigné les groupes égarés qui rentrent dans les 72 groupes. De ce fait, si on trouve qu'à notre époque, certains savants désignent certains groupes comme rentrant dans les 72, il ne fait que suivre les traces des pieux prédécesseurs. Après avoir pris connaissance de ces trois points, le moment est venu de répondre à la question qui est: est-ce que les sectes présentes à notre époque rentrent dans les 72 groupes mentionnés dans ce hadith? La réponse est que les groupes présents à notre époque sont de deux catégories. La première, ce sont les groupes qui appellent à la mécréance, au polythéisme, à la laïcité et autres. Ces groupes rentrent sans aucun doute dans les 72 égarés qui furent cités dans le hadith de la division. L'éminent savant Cheikh Mourbil Ibn Hadi Al-Wadi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, mentionne dans son livre intitulé Dala'il An-Nubuwa, après avoir mentionné le hadith de Muawiyah Ibn Abi Sufyan, qu'Allah l'agré, les gens du livre se sont divisés en 72 groupes. Et cette communauté se divisera en 73 groupes. Ils sont tous en enfer sauf un, et c'est la Jama'a. Il dit qu'Allah lui fasse miséricorde. Ceci est un signe et une preuve de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car nous disons, ceci est un chiite, l'autre un mu'tazili et l'autre un jahmi. Puis il ajoute, rahmahullah, et ce qui est plus grave à notre époque, c'est qu'on trouve des groupes qui appellent à la mécréance et au polythéisme, tels que Hizbul Bahfi, ainsi que les Shuyuyin. Fin de citation. Ainsi, ce genre de groupe rentre sans aucun doute dans les 72 égarés. La deuxième catégorie sont les groupes islamiques et d'autres qui sont politiques, tels que les frères musulmans, Jama'atut Tablir, et certaines associations, telles que Ihya ut Turaf et d'autres. Ce sont des musulmans, néanmoins certains d'entre eux sont rentrés dans la politique, et il n'y a pas de doute que celui qui rentre dans la politique devra délaisser pas mal de choses de sa religion et accepter des choses qui n'ont rien à voir avec l'islam, ni de près ni de loin, telles que la démocratie par exemple. Et la question qu'on se pose ici est: quel est le jugement de ces groupes? Rentre-t-il dans les 72 groupes cités dans le hadith de la division? La réponse est que cela revient aux savants. Si ils sont d'avis qu'ils en font partie, alors tel sera le cas. Et si ils ne se prononcent pas, alors nous ne nous prononcerons pas dans cette affaire. Prenons l'exemple de la secte des frères musulmans et celle de Jama'atut Tablir. L'éminent savant, Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, fut questionné quant à ces deux sectes. Rentre-t-elle dans les 72 groupes? Il répondit qu'elle rentre dans les 72 groupes cités dans le hadith de la division, car ce sont deux sectes qui appellent aux innovations. Et en plus de cela, Jama'atut Tablir ont des choses qui relèvent du polythéisme. Par conséquent, pour juger qu'un groupe fait partie des 72 groupes égarés cités dans les hadiths, il faut que ces conditions soient réunies. On ne doit pas juger que tel groupe rentre dans les 72 groupes égarés sans revenir aux paroles des grands savants. Ceux qui ont regroupé la science, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et la retenue. Ceux à qui la communauté musulmane revient lors des troubles. Et nous allons finir ce sujet avec un dernier point important, qui est en vérité une réfutation au groupe islamique politique, tel que la secte des frères musulmans et leurs semblables. Comme vous le savez, à notre époque, nous voyons de plus en plus de groupes islamiques rentrer dans la politique, et ils ne lésinent pas sur les moyens pour tromper les musulmans avec tout type de slogans et de phrases accrocheuses qui ont pour but d'augmenter leurs adhérents et leurs suiveurs et d'avoir l'aval des gens de la masse. Par conséquent, il est du devoir du prêcheur de réfuter leurs paroles et leurs ambiguïtés en mentionnant les preuves du Coran et de la Sunna et en faisant preuve de retenue. Car comme nous l'avons dit dans le premier cours, celui qui réfute doit le faire avec science. Parmi leurs paroles connues, nous retrouvons « Nous voulons prendre le pouvoir uniquement pour secourir l'islam et les musulmans. » Et la réfutation de cette parole se fera en deux points. Le premier est que nous leur disons tout d'abord que le sectarisme est une innovation, est un égarement. Comme l'a mentionné l'éminent savant, Cheikh Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans Silsilatul Huda wa Nour. Et nous avons un verset du Coran qui vient confirmer la parole du Cheikh Rahimahullah. Il s'agit du verset 159 de Surat les Bestiaux. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. Ceux qui fractionnent leur religion et se divisent en sectes De cela, tu n'es pas responsable. Leur sort ne dépend que d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui les informera alors de ce qu'ils faisaient. Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit concernant le tafsir de ce verset est général et concerne toute personne qui s'écarte de la religion et la contredit. Ainsi, ceux qui contredisent le Coran et la Sunna sont informés qu'Allah subhanahu wa ta'ala a innocenté son prophète de toutes ses sectes et de tous ses groupes. La voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa Sunna est l'union. Quant à leur voix, c'est la division et le sectarisme. Le deuxième point, ils prétendent vouloir prendre le pouvoir pour secourir l'islam et les musulmans. Néanmoins, il est apparu aux gens de manière très claire que cette parole est un mensonge. Car lorsque les frères musulmans ont pris le pouvoir en Égypte il y a quelques années, ils ont certes contredit la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons, et ils ont ramené des choses très mauvaises que beaucoup de gens ne pouvaient pas imaginer. Nous disons aux frères musulmans, ainsi qu'à leurs semblables, que le secours de l'islam et des musulmans a des conditions et des causes. Il y a cinq causes qu'Allah a mentionnées. Et malheureusement, ils n'en ont aucune des cinq. Et les musulmans n'auront la victoire sur leur ennemi qu'avec ces cinq conditions qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées dans son livre, notamment dans deux versets consécutifs. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 45 et 46 de sourate le butin, يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. Ô vous qui croyez, lorsque vous rencontrez une troupe ennemie, soyez ferme. Et mentionnez abondamment Allah afin de parvenir au succès. Obéissez à Allah et à son messager, et ne divergez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Et soyez patient, car Allah est avec les patients. Il est donc impossible pour n'importe quel groupe de dominer ses ennemis sans ces cinq causes. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dominé leur adversaire et ont été secourus en mettant en application ces cinq causes. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu. Ô vous qui croyez, lorsque vous rencontrez une troupe ennemie, soyez ferme. Voici la première cause, qui est la fermeté, être ferme sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que les musulmans soient tous sur la même chose, c'est-à-dire le suivi du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ et mentionnez abondamment Allah afin de parvenir au succès. Ceci est la deuxième cause qui est évoquée Allah subhanahu wa ta'ala abondamment. Ensuite il dit وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ obéissez à Allah et à son messager. Ceci est la troisième cause, qui est le fait de revenir au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que les groupes islamiques politiques se sont écartés du Coran et de la sunna, comment peuvent-ils alors espérer le secours? Et nous avons des preuves dans la sunna indiquant que le retour au Coran et à la sunna est une cause de préservation des troubles, ainsi qu'une cause du secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith d'Al-Irbad ibn Sariya qu'Allah l'agré, ceux qui vivront parmi vous verront de nombreuses divergences. Suivez donc ma sunna et la sunna des califes bien guidés. Accrochez-vous-y, mordez-y avec vos molaires. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit: Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Et ne divergez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de nous diviser. Et dans le cas où les musulmans se retrouveraient dans cette situation, ils ont l'obligation de s'unir et de délaisser cette division. Car la communauté ne pourra pas retrouver la suprématie en étant divisée. Et pour finir, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Wasbiru inna Allah ma'as sabirin. Et soyez patients, car Allah est avec les patients. Et ceci est la cinquième condition qui est la patience. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont rempli ces cinq conditions. C'est pour cela qu'ils ont conquis beaucoup de pays et avaient la suprématie sur terre. Personne n'a pu les arrêter. Néanmoins, lorsque les gens après eux se sont divisés, les musulmans ont faibli. Ainsi, si les gens reviennent à ce sur quoi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala donnera la suprématie aux musulmans. Et nous avons une confirmation de cela dans la parole de l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il dit: ne réformera les derniers de cette communauté que ce qui a réformé les premiers. Et ce qui a réformé les premiers de cette communauté, ce sont les cinq causes que nous avons mentionnées précédemment. En conclusion, si ces groupes veulent réellement secourir l'islam, il leur faut obligatoirement mettre en pratique ces cinq causes. Ensuite, l'auteur nous dit, rahmahullah, le fondement sur lequel est établi Al-Jama'a sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons cité dans un cours précédent les preuves quant à s'attacher à la jama'a. Et cette jama'a à laquelle il est obligatoire de s'attacher sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les savants de cette communauté qui suivent leur voie. Il nous est obligatoire de suivre la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ce sont ceux qui ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont écouté ce qu'il disait et qui ont vu ce qu'il faisait. Par conséquent, ils connaissaient la vérité et le faux. Lorsqu'ils ont appris la vérité, ils l'ont mis en pratique et l'ont propagé et ont appelé les gens à suivre cette vérité. Et lorsqu'ils ont pris connaissance du faux, ils s'en sont écartés et ont mis en garde la communauté contre ce faux. Également, lorsque la révélation descendait sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient les plus savants de ce qui se passait. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'agré pas une autre voie que la leur. Allah subhanahu wa ta'ala dit: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Les tout premiers parmi les émigrés et les Ansar, ainsi que ceux qui les ont suivis avec bienfaisance, Allah est satisfait d'eux, et ils sont satisfaits de lui. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Voilà la réussite suprême. La réussite suprême est pour ceux qui ont suivi la voie des compagnons. Et il y a certes un point à méditer sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان Les tout premiers parmi les émigrés et les Ansar, ainsi que ceux qui les ont suivis avec bienfaisance. Ils ne se sont pas contentés de les suivre dans l'appellation, mais plutôt, ils les ont suivis dans tous les domaines. Également, nous avons le verset 137 de Sourate al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ Si ils adoptent la même croyance que la vôtre, c'est qu'ils sont bien guidés. Et si ils s'en détournent, c'est qu'ils ne cherchent qu'à rester dans la contradiction. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, nous clarifie que la guidée et la réussite sont reliées à la voie et au manhaj des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui les suit avec bienfaisance sera bien guidé et réussira. Quant à celui qui les contredit, il aura un châtiment douloureux. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.